crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous examinons un film, un poème cinématographique d'une vingtaine de minutes intitulé « Entracte », inventé dans le cadre d'un ballet, lui-même intitulé « Relâche », conçu par Picabia et Erik Satie, grâce à la commande des ballets suédois dont Rolf de Maré était le directeur et Jean Borlin, le chorégraphe et danseur. « Entracte » est la première incursion du cinéma dans un spectacle de danse, c'était en 1924, au Théâtre des Champs-Élysées.
Le cinéma va commencer. Il va commencer avec des hommes comme René Clair, par exemple, qui a compris tout le nouveau possible, comme Daven, qui sera un précieux auxiliaire. J'espère ainsi qu'à 5 ou 6, tant mieux si nous sommes plus nombreux. Nous arriverons à faire des films qui ne seront ni américains, ni norvégiens, ni français, mais internationaux. Je veux dire par là, des films exprimant toutes les évolutions de notre époque, ses désirs, ses besoins. On ne va pas au cinéma pour y retrouver sa table de nuit, ses pantoufles, sa cuisinière ou son carnet de chèques, mais au contraire, pour oublier tout cela le plus possible et prendre ainsi un repos indispensable que procure seule la distraction et le rire. Mais il me semble que j'ai assez parlé. Pour être compris, le mieux est encore de montrer quelque chose. Au risque que cela passe pour de la publicité, je n'hésite pas à demander à tous ceux que le cinéma intéresse d'aller voir au Théâtre des Champs-Élysées le film « Entracte » qui se donne au milieu du ballet « Relâche ». Picabia. Instantanéisme, 1924.
Picabia, dadaïste arborant en permanence le drapeau noir des anarchistes, poète de sa vie, qui après avoir été associé au grand mouvement Dada préférera se consacrer au mouvement perpétuel. Il réalise en collaboration avec René Clair et surtout Erik Satie un film merveilleux, burlesque, absurde, poétique de bout en bout, plein d'inventions visuelles et de métaphores essentielles. Sorte de scènes enchaînées selon des logiques étranges que Picabia décrit ainsi, un film qui traduit nos rêves et les événements non matérialisés qui se passent dans notre cerveau. 8 scènes qui commencent par la charge d'un canon par Erik Satie et Picabia, avec des bonds en ralenti, des gants de boxe blancs qui surgissent de l'écran noir vers le spectateur, des visions de la ville la nuit et des points blancs qui flottent dans l'espace, des allumettes qui s'enflamment dans les cheveux d'un poète, une partie d'échecs entre Man Ray et Marcel Duchamp, soudain renversée par un jet d'eau intempestif, un bateau en papier qui s'envole, une danseuse filmé par en dessous, un chasseur qui tire sur des cibles foraines, des poupées en caoutchouc qui se dégonflent, un pigeon qui s'échappe et se pose sur la casquette du chasseur, à son tour visé par le fusil de Picabia et qui tombe d'un immeuble, des funérailles, un corbillard tiré par un chameau, corbillard poursuivi par les amis et qui se libère et roule à tombeau ouvert, c'est le cas de le dire, dans la campagne, et le cercueil se renverse dans les champs. Le mort se soulève, la mort est donc vaincue par le rêve, et le ressuscité magicien fait disparaître les protagonistes, et s'efface à son tour, en un carton de fin traversé par Picabia comme pour passer de l'autre côté de la vie et revenir hanter nos vies, justement.
Assaut de boxe par des gants blancs sur écran noir. Partie d'échecs entre Duchamp et Man Ray. Jet d'eau manœuvré par Picabia balayant le jeu. Chasseur tirant sur un œuf d'autruche sur jet d'eau. De l'œuf sort une colombe. Elle vient se poser sur la tête du chasseur. Un deuxième chasseur tirant sur elle tue le premier chasseur. Il tombe, l'oiseau s'envole. 11 personnes couchées sur le dos présentent le dessous de leurs pieds. Danseuse sur une glace transparente, cinématographiée par en dessous. Gonflage de ballons et de paravents de caoutchouc sur lesquels seront dessinées des figures accompagnées d'inscriptions. Un enterrement, corbillard traîné par un chameau, etc.
Et l'on entendait le scénario d'entracte, au fond deux feuilles manuscrites, lues par François Perrier. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente notre invité. Bonjour Bernard Marcadet, comment allez-vous ?
Bonjour, je vais très 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 bien.
Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Vous êtes le fameux historien d'art, professeur d'esthétique et d'histoire de l'art à Paris-Cergy. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, L'éloge du mauvais esprit. Ça c'est très ancien, mais au fond ce mauvais esprit continue à vous ressembler et vous continuez avoir une attirance comme ça pour ces mauvais garçons et mauvaises filles que vous célébrez dans votre travail. Vous avez également fait un très beau livre sur Marcel Duchamp, Une vie à crédit chez Flammarion en 2007, un Fabrice Hibert chez Flammarion en 2009. Mais surtout, vous êtes en train de préparer un grand livre sur René Magritte qui, je crois, va paraître chez Citadel, Masno. Et c'est pour ça que vous êtes là aussi. Un livre sur Picabia ?
Oui, une biographie de Picabia.
Alors Picabia, c'est un personnage qui ne vous quitte pas parce que j'ai l'impression qu'il y a au moins 25 ans que vous m'en parlez.
Oui.
Et que vous avez toujours aimé ce curieux funny guy. Qu'est-ce que ça veut dire funny guy d'ailleurs ?
Bah, le gars drôle, hein, le drôle de gars.
Il était pourtant très mélancolique, non ?
Oui, très mélancolique. Oui, très, on dirait bipolaire aujourd'hui. Mais bon, c'est pas des mots avec lesquels je travaille, hein, la bipolarité. Mais enfin, je pense que ce serait ça, oui, peut-être, C'est-à-dire qu'il passait par tous les états. En fait, tous les bipolaires ne sont pas des picabias.
<C'est ça. rire> Voilà. Marcel Duchamp avait cette mélancolie aussi.
Oui, mais beaucoup plus homéopathisée. Je pense beaucoup plus diluée. Je pense que c'est chez Picabia vraiment la question du mal-être, du malaise, la question des passages entre l'exaltation et la dépression, c'est vraiment, on pourrait dire, l'économie de vie et d'œuvre de Picabia.
D'où son expression, la tête est ronde pour que... quelque chose comme ça, non ?
Oui.
Notre tête est ronde pour que nos idées puissent changer de direction.
Exactement. C'est le titre qui a été donné à la manifestation, à l'exposition qui a lieu à Zurich en ce moment au Kunsthaus de Zurich.
Voilà, elle vient d'ouvrir et c'est une exposition qui vaut vraiment la peine et dans laquelle il y a ce film qui est projeté intégralement. C'est en général, on connaît tous un ou deux fragments de ce film. Et cette présentation intégrale qu'on a essayé de décrire dans l'introduction est saisissante d'invention, de liberté. Est-ce que vous pouvez nous resituer la façon ou le moment dans lequel ce film a été présenté ?
Normalement, la première manifestation était prévue le 27 novembre 1924. En réalité, elle aura eu lieu le 4 décembre parce que le jour prévu, le 27 novembre, il y avait un panneau qui indiquait « Relâche », qui était en même temps le titre de la manifestation. En réalité, c'était pas... Il n'y avait aucun jeu là-dedans. Il s'avérait que les danseurs étaient malades et que...
Et voilà. Tout le monde a cru que c'était une bonne blague dadaïste et que le spectacle s'appelait Relâche parce qu'effectivement, il n'y avait pas de spectacle, en fait.
Voilà. Et donc...
Il a fallu reporter.
Ça a été reporté de quelques semaines. Et bien, ce qui est intéressant dans cette... c'est une œuvre entière. C'est-à-dire, on pourrait dire un spectacle total. Un Gesamtkunstwerk, pour parler... comme Wagner, qui n'était pas vraiment un ami trop de Picabia, mais...
Ni de Nietzsche, à la fin.
Oui, voilà. Mais en tout cas, c'est une œuvre d'art totale, dans la mesure où, effectivement, ça commence par une petite projection, qui est introductive, réalisée par René Clair, où on voit Picabia et Satie sautillant devant un canon, et ouvrant, évidemment, le spectacle.
Permettez-moi, Bernard, juste pour reprendre ce petit début, parce que je suppose que c'est la même scène que la première scène d'entracte. Et donc, il faut que nos auditeurs imaginent la poésie. On est sur les toits de Paris, il y a un canon dans l'esprit 1914, hein, effectivement. Et les deux protagonistes, Éric Satie et Francis Picabia, font des bonds, mais au ralenti. Et on a l'impression d'une vision irréaliste comme ça. Et ce canon est face au public, regarde comme un œil obsédant, comme ça. Et c'est un moment très étrange de suspension du jugement. Il n'y a rien de belliqueux dans ce canon. Et même ce que l'on met à l'intérieur, cet obus, ne ressemble plutôt à un crayon qu'à un obus, d'ailleurs.
Oui, absolument. C'est véritablement c'est une introduction à la fois violente et drôle. Et ça, c'est tout le paradoxe magnifique, je crois. Donc ensuite, le spectacle s'ouvre avec effectivement.
Là, c'est le ballet, n'est-ce pas?
Ouais, le ballet avec donc 300. Alors sur la scène, il y a 370 réflecteurs, qui sont
dirigés vers le public.
Ce qui veut dire qu'on est dans un système d'aveuglement finalement. Là encore une fois, il y a une sorte de retournement des choses. Et donc il y a un ballet fait donc par les ballets suédois qui étaient très très à la mode à ce moment-là avec chorégraphie de Jean Berlin.
Jean Berlin, c'était un petit peu la réincarnation de Nijinsky, c'était le nouveau grand danseur comme Nijinsky. Ouais. Et les ballets suédois, effectivement, c'était je crois les 24e ballets suédois, oui. Et donc c'est leur dernier d'ailleurs, dernière apparition, ouais. mais c'était très célèbre effectivement comme vous le disiez.
Ouais. Ensuite, il y a un entracte, et donc le fameux film de René Clair, qui s'appelle évidemment Entracte. Et ce qui est très passionnant là-dedans, c'est qu'il y avait aussi des invités. Alors, donc c'est vraiment un spectacle total. Il y a des invités, et il y a une fameuse scénette jouée par Marcel Duchamp et Brogniart Perlmutter, dans un fameux ciné-sketch qui a été joué une ou deux fois, dans lequel qui ont repris le tableau de Cranach, d'Adam et Ève, et donc ils sont nus, donc Marcel est nu avec une sorte de feuille de figuier devant le sexe, et Brogniart est en train de cacher un petit peu ses parties honteuses, et c'est très beau, et donc ça c'est vraiment un tableau vivant, donc il y a aussi l'introduction de tableau vivant, en dehors c'est une sorte de choses qui étaient en plus du spectacle.
D'accord, je me souvenais pas, parce qu'on connaît tous cette photographie de Marcel Duchamp en Cranach, comme ça, et photographie de Maneret, ouais. Mais je savais pas que c'était dans ce spectacle.
Oui, c'est dans ce spectacle-là. C'était
Un nombre d'innovations dans ce spectacle
énorme,
incroyable.
Énorme. Et c'est à cette occasion-là que donc René Clair tombe amoureux de Brogniart Perlmutter, cette Brogniart Perlmutter va devenir sa femme.
Qui était une danseuse, en fait, à l'époque?
Pas vraiment une danseuse, c'était une personne, une néerlandaise qui était arrivée dans le milieu artistique de Paris et qui était assez amie avec Mondrian. Non, c'était une personne, on pourrait pas dire une danseuse, non, parce que là, elle jouait vraiment un personnage parce qu'elle était très belle. Elle jouait Ève, tout simplement.
Tout simplement. Et alors, effectivement, Francis Picabia avait recommandé aux spectateurs de venir avec du coton dans les oreilles et des lunettes de soleil. Ouais. Il fallait le prendre au pied de la lettre, puisqu'effectivement, on était tous éblouis. Donc, c'est l'invention d'un art optique, réellement,
oui,
avec
absolument.
Une puissance qu'on verra que dans les années 60, en fait, avec l'invention de Lopart. Une puissance d'aveuglement terrible, ou chez Molinodge, peut-être, un petit peu plus
absolument.
Tard. Mais tout était une invention. C'est première fois le cinéma dans un spectacle, premier tableau vivant, premier, etc.
Ça, c'est un des premiers films de René Clair aussi. Il avait fait un petit film avant. Donc là aussi, c'est vraiment, on sent l'énergie novatrice de René Clair, qui ensuite va un petit peu s'émousser avec le temps, hein.
Oui, il va devenir un petit peu plus commercial, disons, mais reste Éric Satie, quand même le vieux maître des jeunes musiciens, en quelque
sorte. Oui, c'est comme ça que Picabia le qualifiait. Et je trouve que ce duo est vraiment magnifique, et la musique elle est on pourrait dire l'équivalent dans la musique de ce que la peinture de Picabia est, c'est-à-dire un mélange de choses savantes et de choses complètement
parce qu'il y a des
vulgaires, et
c'est inspiré par des chants grivois, comme on pourrait dire,
oui,
pour une part, et puis
absolument, et puis en même temps on voit qu'il connaît la musique, quoi, d'une certaine manière. Et donc, et ce jeu, c'est exactement la même chose chez Picabia, qui était quelqu'un qui connaissait très bien la peinture au fond, d'une certaine manière, mais qui a passé son temps quand même à faire des dégâts avec elle.
Oui, il était grinçant. Écoutons donc à nouveau un texte de Picabia sur Entracte, puis on entendra un témoignage de René Clair, le réalisateur d'Entracte dont vous parliez, Bernard Marcadet, une interview de 1979, tardive donc.
J'ai donné à René Clair un tout petit scénario de rien du tout. Il en a fait un chef-d'œuvre. Entracte. L'entracte de relâche est un film qui traduit nos rêves et les événements non matérialisés qui se passent dans notre cerveau. Pourquoi raconter ce que tout le monde voit ou peut voir chaque jour? Entracte est un véritable entr'acte. Un entr'acte à l'ennui de la vie monotone et des conventions pleines de respect hypocrite et ridicule.
Picabia, en effet, avait eu l'idée de faire son ballet en deux actes, séparés par un entr'acte dans lequel on projetterait des images cinématographiques. Exactement comme on faisait autrefois dans les cafés-concerts à Paris, où le cinéma était un divertissement qu'on projetait à l'entr'acte.
Le canevas avait été fixé partiellement seulement.
Bien sûr, c'est pas entièrement de l'improvisation, caméra en main. J'ai rencontré Picabia donc au début, et il m'a expliqué ce qu'il voulait faire, mais d'une façon assez large et assez vague, n'est-ce pas, sans précision. Il a noté un certain nombre d'idées.
Par écrit, il vous les avait données ?
Oui, il me les a données par écrit sur un papier à lettres de chez Maxime.
Que vous avez gardé ?
Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est tout à fait dans le style de Picabia de l'époque, chez Maxime. J'ai pris ce papier et j'ai développé les idées contenues dedans. J'en ai ajouté quelques-unes qui me semblaient être dans le ton et dans le style de Picabia. Et puis quand c'était terminé, je lui ai montré. Il avait l'air très satisfait. Et le film a été projeté ainsi.
Au moment de la réalisation, Picabia intervenait, n'intervenait pas, se comportait
comment ? Non, il est venu deux ou trois fois me regarder tourner. Non, il était très libéral, il me laissait tout à fait. Enfin, probablement a-t-il été satisfait des idées que je lui avais données, que je lui avais soumises, plus exactement. Et je n'ai pas s'en mêler, je pense.
Le tournage a duré combien de temps ?
Le tournage, c'était pas très régulier. Il a dû durer à peu près 3 semaines, ou un petit mois.
Il comportait des comédiens ?
Non. Comédiens professionnels, non.
Est-ce que des amis communs ou des amis de Picabia ou les vôtres
oui,
figurent ?
D'abord, un rôle important a été tenu par Jean Borlin, qui était le premier danseur des ballets suédois. Et à part ça, moi j'avais convié, notamment pour cette scène d'enterrement, j'avais convié des amis communs à nous, n'est-ce pas ? Il y avait Marcel Achard, que je connaissais, qui était un de mes contemporains, écrivain. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Il y avait des journalistes. Mon ami Charansol, Pierre Cis, qui était un journaliste important de l'époque. Et quelques peintres, dont Touchag, par exemple.
Comment le public a-t-il accueilli le spectacle ?
Eh bien, bien ou mal ? Mal aux yeux de certains, puisqu'il y a eu l'énorme chahut. Bien aux yeux de Picabia et aux miens, parce que j'étais absolument d'accord avec ce que Picabia avait écrit du public, j'aime mieux les entendre siffler qu'applaudir. Mais il a été servi.
Nous sommes toujours sur France Culture et nous examinons ensemble avec Bernard Marcadet ce film, ce chef-d'œuvre poétique qu'est Entr'acte, projeté en 1924 au Théâtre des Champs-Élysées dans le cadre du ballet Relâche. Les sifflets, donc, Picabia, ça ne l'inquiétait pas beaucoup, Bernard Marcadet, j'ai l'impression.
Non, ils étaient même suscités et même désirés, finalement. Oui, mais ça, c'est tout le... Tout le côté mauvais garçon de Picabia qui n'aimait pas, enfin qui disait que être contre Dada c'était vraiment être Dada. Enfin voilà, c'est, il a toujours pris les choses un petit peu à l'envers. Et c'était son trait de, je dirais, de caractère. C'était la chose la plus importante pour lui, c'est de prendre les choses à rebrousse-poil. Oui, je crois qu'il ne pouvait pas vivre dans le bon sens, dans le sens.
D'ailleurs, dès qu'une formule commençait à avoir un succès, il la détruisait immédiatement. Il y a toujours quelque chose de grinçant. Alors, on va revenir quelques instants encore sur ce film, et après, j'espère que nous pourrons parler de la personnalité globale de Picabia, qui est monstrueuse, c'est un monstre objectivement, et d'un ogre plus exactement. Hein. Mais dans ce film, je lisais avec beaucoup de plaisir un essai visuel qu'a fait notre ami commun, Jean-Jacques Lebel, l'artiste, et qui a regardé cela. Et on s'aperçoit que dans ce film, qu'ils ont fait pendant une durée plus longue que ce que je croyais, en entendant René Clair, j'entends plus de 3 semaines, ça montre un soin de détails. Il y a un nombre d'inventions visuelles qui vont peut-être nourrir la peinture de Picabia lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense qu'il y a vraiment une coïncidence très forte entre les intérêts de Picabia, et surtout on pense évidemment aux transparences.
Les superpositions dans le film, oui, c'est ça?
Absolument, ce qu'on appelle les transparences, mais qui sont en fait des superpositions de plusieurs images qui vont venir après le film. Donc il y a bien une, peut-être que le cinéma qui permettait cette opération finalement, peut-être que, en tout cas une des sources, c'est peut-être le cinéma.
Ce que vous voulez dire, c'est que le cinéma aurait été à un moment donné le laboratoire de sa future peinture.
Bah en tout cas pour ce qui est des transparences, il me semble que, en tout cas dans ce film, le fait qu'il y ait des superpositions, des surimpressions, ça me paraît assez évident, alors que dans sa peinture, à ce moment-là, il n'y avait pas ça. On était encore dans la peinture mécanomorphe, c'était le début des monstres, effectivement, vous parliez de Picabia comme un monstre, oui, c'est le début des monstres, mais ce n'est
pas
encore...
Alors les monstres, pour nos auditeurs, ce sont des peintures qui sont inspirés de chromos, on peut dire sentimentaux parfois, repris avec une peinture ripollinée, extrêmement brillante, avec une matière désagréable, et où il n'y a pas un geste qui ne soit pas fait pour rendre l'image antipathique.
Absolument. Et donc c'est cette époque-là, et donc il n'a pas encore, c'est dans les années 30 qu'il fera ses fameuses transparences. Et donc, et ensuite il fera encore d'autres choses.
Il y a autre chose qui apparaît dans le film, ce sont ses points.
Oui,
il y a parfois une sorte de ponctuation qui apparaît flottante.
Oui, vous avez raison, mais ça c'est la question photographique. Alors, on sait que Picabia avait des problèmes avec la photographie, mais qu'en même temps, toute sa vie, il n'a utilisé que de la photographie, même s'il l'a dénié, même s'il l'a refoulé.
C'est drôle que vous parliez de ça, parce que je lisais dans sa biographie que son père était membre ou directeur même de la Société Française de Photographie.
Absolument,
était. Et donc c'est de là que vient cette sorte de...
Oui, il disait à son grand-père d'ailleurs, oui, mais non, mais c'est quand même la peinture, c'est plus fort que la photographie, etc. Donc il y avait cette idée, dès le départ chez Picabia, l'idée de que ça va être que la peinture doit gagner dans ce combat. C'était encore le combat entre la peinture et la photographie. Et en même temps, et c'est ça qui est le paradoxe magnifique de Picabia, et en même temps, toute sa vie, il n'a fait que de s'intéresser à la photographie pour les peindre, finalement. Même la période impressionniste de Picabia, il n'est surtout pas allé dehors, il n'a pas fait une peinture de plein air, il a pris des photographies et il a fait une peinture impressionniste d'après des photographies.
Oui, parce que nos auditeurs ne savent peut-être pas qu'entre 1898 et 1905, ça a été un peintre impressionniste à succès.
Absolument, qui a gagné beaucoup d'argent.
Et qui était dans l'ambiance de Sisley et Pissarro.
Absolument.
Et il a cherché à devenir ami des enfants de Pissarro, et Pissarro l'a trouvé tout d'un coup ignoble quand il a su qu'au lieu d'aller en plein air, il se contentait de prendre des photos et de les recopier.
Voilà. Donc son rapport à la photo, encore une fois, est vraiment très, très, très singulier. Et je pense qu'effectivement, la question des trames, la question de la photographie, on voit la matérialité de la photo, et donc dans le cinéma, elle est amplifiée 24 fois par seconde. Donc c'est assez... Je crois que tous ces phénomènes visuels vont avoir une traduction picturale. Évidemment, là, toute la dernière partie de l'œuvre de Picabia, effectivement, ce sont ces fameux points.
Qui reviennent
points
et qui,
très énigmatiques,
on remarque flotter dans l'espace.
Dans des espaces assez à la fois monochromes, mais très matiéreux en même temps.
Ouais.
Donc ça, c'est le fameux point final de sa peinture, quoi. Donc... Ces points. Moi, je pense que tous les accidents, parce que ce film, c'est un film où il y a plein d'accidents. C'est une sorte de cadavre exquis avant la lettre, encore une fois. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est une sorte d'énorme dérive visuelle. Il y a des accidents, il y a des interruptions, il y a des surexpositions, là aussi, on n'est pas du tout dans une narration c'est extrêmement chaotique. Il y a une volonté de mettre le chaos dans l'image. Et donc, je pense que cette dimension chaotique, c'est exactement l'état d'esprit aussi de Picabia. Il a vraiment mis le chaos, il a même mis le bordel dans la peinture. Je crois qu'il y a une volonté maligne chez Picabia de ne pas être dans la bonne ligne.
Oui, il veut sauver la peinture contre la photographie, il la détruit sans arrêt, il l'abîme, il la, Il la corrompt.
Il la maltraite.
En fait.
Il la corrompt.
Hein. Et alors, un petit mot encore sur la période du film, parce que quand même, c'est une année étrange, 1924. C'est quand même l'année du manifeste du surréalisme. Et c'est l'année de Ballet Mécanique de Fernand Léger aussi.
Oui,
est-ce que Ballet Mécanique aurait pu avoir, c'est un grand film abstrait de Fernand Léger, est-ce que ça aurait pu avoir une influence? Est-ce qu'ils se regardaient les uns les autres? Comment est-ce que...
Je pense que c'est surtout avec Marcel Duchamp, la question de l'amour, l'amour de la chose mécanique, le fameux tableau mécanomorphe, c'est vraiment des choses qui sont plutôt liées à Marcel Duchamp. Ceci dit, Léger n'est pas loin. C'est quand même le même contexte. Mais je pense que c'est surtout la relation avec Duchamp qui est là, et surtout le fait qu'il soit allé aux États-Unis. D'abord Picabia, le premier en
1913, pour l'Armory Show, où Duchamp exposait effectivement
le nu descendant un escalier. Oui, donc il avait assez beaucoup d'argent, Picabia, il pouvait faire le voyage, et c'est là où il a... Donc le
Est-ce que Duchamp n'y était pas, lui?
Non, Duchamp est arrivé 2 ans après. Quand Picabia est revenu à Paris, il a dit à Marcel Duchamp, ton tableau a fait un succès de scandale. Encore une fois, c'était pas du tout un succès d'estime, c'est un succès de scandale, mais le micro-milieu artistique new-yorkais t'attend. Et donc, 2 ans après, Duchamp débarque avec Gabriel Buffet, il débarque à New York, et Picabia est à nouveau là, et là, ils sont en admiration devant le mode de vie. Le mode de vie américain, le rapport à la machine, le rapport à la beauté des femmes, les femmes sportives, la liberté des mœurs, le rapport à la publicité, le jazz, enfin tout ce monde, au fond une forme de chaos.
Bien sûr.
Si on regarde la vieille Europe qui est encore se morfond dans des... Donc il y a une sorte de nervosité magnifique qui les prend, qui les saisit. Et je pense que les tableaux mécaniques ou mécanomorphes de Picabia, comme les tableaux, quelques tableaux de Duchamp à la même époque, viennent de ce choc américain, je pense.
Il y a deux tableaux, un tableau de Marcel Duchamp et un tableau de Picabia, qui ont à peu près cette période-là dont vous parlez, autour de 1913, je pense, ou 1912 ou 13, vous allez nous le préciser, ont une relation à la mélancolie. Je pense à Jeune homme triste dans un train, avec cette très belle allitération qui évoque les trains que nous avions dans notre enfance, comme ça, avec le choc comme ça des rails. Et puis un autre qui s'appelle peut-être Mélancolie ou Tristesse de Picabia, presque à la même époque.
Oui. Oui, ils aimaient Jules Laforgue en plus, tous les deux, surtout Marcel Duchamp. Mais non, la mélancolie, elle est très très importante à ce moment-là chez Marcel Duchamp, vous avez raison. Elle est effectivement alors déjà très très présente chez Picabia, mais lui ne va pas arrêter de faire des allers-retours entre une énorme excitation et des grandes périodes d'abattement et d'effondrement. Mais Marcel Duchamp va passer sa vie, finalement, à régler cette question avec élégance et douceur. Tandis qu'il y a de la fureur chez Picabia, il y a aucune tranquillité. Il y a vraiment un côté zen chez Marcel Duchamp qui n'est absolument pas chez Francis Picabia.
Alors tout à l'heure, nous parlions de la période surréaliste. Ensuite, il y a eu évidemment les influences du cubisme, du fauvisme chez Picabia. Et puis, tout d'un coup, il y a cette rencontre avec Marcel Duchamp. Comment ça s'est fait, la rencontre avec Marcel?
Marcel Duchamp était vraiment dans un contexte qui n'était pas terrible. C'était le contexte de Puteaux, de ses frères. Il avait deux frères artistes. Donc, il y avait le monde de l'art parisien se distinguait entre le monde, entre Picasso d'un côté et les frères Duchamp de l'autre. Et malheureusement, Duchamp était du mauvais côté. C'est-à-dire du côté des ennuyeux, des gens qui ratiocinaient, des gens qui parlaient et qui faisaient quand même des mauvais tableaux. Alors que d'un côté, il y avait Picasso qui lui-même parlait pas beaucoup, mais faisait des très bons tableaux. Donc il était dans le mauvais camp. Et au fond, Picabia, lui, il avait bien sûr un regard en tant que vague espagnol sur Picasso. Il n'a eu de cesse d'ailleurs d'avoir un regard sur Picasso.
Oui, ils sont beaucoup croisés
toute leur vie. Et il y a vraiment des relations intéressantes à établir entre eux. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas être l'ami de Picasso. Est-ce qu'on pouvait d'ailleurs être ami avec Picasso? Alors donc, du coup, Duchamp était parfait. Jean était parfait parce qu'il a senti, Picabia, qu'il pouvait, il avait pas très très envie de rester dans ce cercle de puteaux très très ennuyeux avec ses frangins, etc.
Oui, parce que le cercle de puteaux, c'était un cercle, comment dirais-je, idéologue. Voilà. C'était des théosophes, une pensée mystique. Il y avait un grand sérieux.
Mystico-rationaliste, oui. Mystico à la fois rationaliste, la quatrième dimension. Ça parlait beaucoup de toutes ces choses-là, mais c'était extrêmement ennuyeux. Il y avait des dimanches, dans tous les dimanches, ils se réunissaient, etc.
Kupka était dans la cour.
Hein. Enfin, c'était dans le même secteur, mais il ne participait pas véritablement comme médecin G, Glaise, voilà. Et puis Picabia a tout de suite vu que c'était des emmerdeurs, des ennuyeux, etc. Et donc il a contribué à tirer du champ de cette nasse d'ennui et du champ toute sa vie remerciera Francis Picabia de l'avoir sorti de cette sorte de côté petit bourgeois de province qu'il était à ce moment-là. Donc il lui doit énormément.
Alors je vous propose, puisque vous en parlez, Bernard Marquedet, d'écouter un texte de Marcel Duchamp à propos de lui-même et de son ami Francis Picabia.
Beaucoup de gens répondent par « oui, mais ». Avec Francis, c'était toujours « non, car ». L'incessante trouvaille de chaque instant. Une explosion à facettes multiples qui coupait court à toute argumentation. Francis avait aussi un don d'oubli total, qui lui permettait d'attaquer de nouveaux tableaux sans le souvenir influence des précédents. Fraîcheur sans cesse renouvelée, qui fait de lui un plus que peintre. Marcel Duchamp, 1954.
Oh, nous avons été très amis d'abord. Très, très amis.
Il y a une grande parenté entre votre état d'esprit et l'état d'esprit qu'il avait.
Énorme, nous avons été très, très amis. Et entre 1911 et 14, surtout, ça a été pour nous une explosion. Nous, c'était assez comme les deux pôles, si vous voulez, chacun ajoutant quelque chose et faisant éclater l'idée par le fait qu'il y avait deux pôles. Étant seul, il aurait été seul, j'aurais été seul, peut-être que moins de choses se serait produit dans nous deux, comprenez-vous? Il a eu comme...
Parce que c'est vous qui le considérez comme le grand surréaliste. Ça, je puis l'affirmer de la manière la plus formelle. Il me l'a dit 10 fois.
Nous essayons d'être plus généraux que le surréalisme. Beaucoup plus indépendant, si vous voulez. Parce que comme le surréalisme, si vous voulez, a voulu faire quelque chose qui s'inscrive dans le cadre d'une société X ou Y. Ils y sont arrivés plus ou moins. Mais chez nous, il n'y avait même pas cette idée de s'inscrire nulle part. Nous ne voulions pas nous inscrire. Nous étions Dada beaucoup plus que Dada, parce que nous aurions détruit Dada aussi, si nous avions pu, comprenez-vous. Il y avait l'idée simplement de ne s'inscrire nulle part et de ne pas briguer aucune notoriété, comprenez-vous.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Les Regardeurs, nous venons d'examiner le film extraordinaire de Francis Picabia, René Clair, Éric Satie, Entr'acte, et je suis avec Bernard Marcadet et nous poursuivons en explorant cette personnalité singulière de l'histoire du XXe siècle, Francis Picabia, et nous évoquions à l'instant la rencontre entre Francis Picabia et Marcel Duchamp, et nous vous entendiez, Marcel Duchamp, dire nous étions comme les deux pôles. Qu'est-ce que c'est ces deux pôles même, Bernard Marcadet? Comment est-ce qu'on pourrait les caractériser? L'un plus étincelant, l'autre plus intériorisé
Il y en a un qui est un taiseux, c'est quand même Marcel Duchamp, et l'autre qui est un extraverti, enfin quand il n'est pas dépressif, hein, mais enfin en général quand...
S'il y avait plus plutôt de explosif, phrases...
ouais. Oui, explosif, et en plus très bon vivant. Alors, ce qui les distingue, c'est ça, c'est qu'il y en a un qui est très bon vivant, l'autre moins, mais en même temps, plus épicurien, on pourrait dire.
Jouisseur, quand même.
Plus jouisseur, totalement jouisseur. On en a fait un pisse-froid, Duchamp était très, très, très jouisseur, vous avez tout à fait raison de le... Mais c'était pas le même type de jouissance. Disons que, quand même, Picabia était plutôt un dragueur, alors que Duchamp était un dragué. C'était un homme que l'on draguait. C'est important, c'est un Don Juan.
Bien sûr.
Picabia était dans la famille des Don Juan, donc des actifs d'une certaine manière. Il avait beaucoup d'argent, ce qui n'était pas le cas de Marcel Duchamp. Il était dépensier, il aimait le luxe, il a eu quand même 300 voitures, 4 yachts, il a tout dépensé.
Puisque vous parlez de voitures, ça évoque en moi un moment qui a été important dans la vie commune de Marcel Duchamp et Francis Picabia. C'est un voyage à 4 avec Gabriel Buffet, ou pour rejoindre Gabriel Buffet
pour
peut-être,
rejoindre, ouais.
Et Apollinaire.
Absolument.
C'est un voyage vers le Jura,
vers le Jura, vers Étival, oui, qui était la maison. La maison de Gabrielle Buffet, qui est une femme très très importante, dont Marcel Duchamp était amoureux. Mais c'était la mariée, donc c'est la fameuse mariée de Marcel Duchamp, c'est bien Gabrielle Buffet, hein. C'est-à-dire celle avec qui on ne couche pas. Alors il couchera avec Gabrielle, mais quand elle ne sera plus mariée avec
lui. Ils vont se séparer en 26, je crois.
Voilà. Donc c'est la fameuse mariée, oui. Donc un amour fou pour cette femme qui était une femme très 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 extraordinaire et qui a donné à Picabia son amour entre guillemets pour l'abstraction, parce que c'est un amour qui était quand même relativement mesuré. C'était pas, enfin disons, le passage en tout cas de l'impressionnisme est passé par une grande période abstraite, et c'est la question de la musique, parce qu'elle était musicienne.
Était une musicienne, elle a été
élève de Vincent d'Indy, je crois, oui. Et c'était une femme vraiment impressionnante intellectuellement. Et donc Marcel est tombé amoureux de cette femme, et ce voyage porte ce désir fou. C'est vraiment un moment où un amour platonique, un amour fou. Ils vont se donner rendez-vous quelques mois plus tard, quand il sera
dans une gare.
Ils vont passer la nuit sans rien faire, si ce n'est parler et lui déclarer son amour. Enfin là, c'est un Marcel Duchamp à ce moment-là qui est très très romantique.
Et Apollinaire est avec eux, et Apollinaire, voilà, se passionne pour ces deux jeunes gens. Il a quelle vision tout de suite, il sait que c'est des personnes qui portent quelque chose de nouveau.
Oui, oui.
À 120 à l'heure dans les montagnes du Jura.
Oui, oui, non, c'est vrai que c'est là qu'ils sont en voiture. C'est là où il déclame sa poésie chez Gabriel. C'est vrai qu'il a un rapport bizarre avec ces deux peintres. Bon, Picabia, c'est un peu plus dans sa famille, puisque il l'a déterminé comme étant orphique, un peintre orphique. Alors, avec Marcel Duchamp, c'est un petit peu plus compliqué. Les nus très vilains, il parle des nus très vilains de Marcel Duchamp dans ses commentaires. Mais en même temps, il y a quelque chose qui prend corps à ce moment-là entre, mais en même temps, il se moque un peu d'Apollinaire, les deux.
Oui,
ça, c'est très intéressant, parce que Apollinaire, bon, on sait ce que ça va devenir, c'est-à-dire qu'il va dire que la guerre est formidable, il va aller à la guerre, adieu que la guerre est jolie.
Il y a une distance quand même, vous dites ça comme si c'était littéral, il y a une distance tragique, non?
Oui, mais quand même, Picabia et Duchamp, eux, ils vont surtout pas aller à la guerre. Hein. Ils sont des déserteurs dans l'âme, c'est-à-dire c'est vraiment des...
Les voilà aux États-Unis.
Voilà. Oui, vraiment, il n'était pas question de faire la guerre. Alors que Apollinaire fait partie des... Alors peut-être parce qu'il n'était pas d'origine française et que c'était une manière pour lui de s'inscrire dans une sorte de réalité nationale. En tout cas, ils se sont beaucoup moqués de lui. Alors évidemment, bon, après, il était blessé, donc c'était un peu moins drôle.
Oui, parce que Picabia a été quand même bouleversé par la disparition d'Apollinaire. Leur attachement s'est construit solidement, oui, je pense, dans le temps.
Oui, et puis il y a cette fameuse présence de Marcel Duchamp, Francis Picabia, Guillaume Apollinaire, pour la représentation des Impressions d'Afrique de Raymond Roussel. Là, c'est aussi une scène primitive de l'art de ce temps. C'est-à-dire que c'est vraiment la représentation théâtrale des Impressions d'Afrique.
C'est incroyable comme le musical et le théâtre ont de l'importance à cette période-là, comme si c'était une régénération de la peinture par ces arts du corps et de la performance, qu'on pourrait dire.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Les futuristes avaient déjà mis le musical comme quelque chose qui était important, comme une dimension finalement qui était pas qu'il fallait considérer, parce qu'elle redonnait de l'énergie. Mais c'est vrai que de la même manière, Raymond Roussel tenait à ce que son livre, qui est quasiment illisible, passe du côté du théâtre pour justement avoir cette dimension populaire, parce qu'il tenait, il aimait beaucoup cette idée d'un théâtre populaire. Et ce qu'ils ont aimé, c'est plus que le livre, c'est vraiment cette représentation où là aussi on a crié, là aussi on a hurlé, là aussi ça n'est pas passé comme une lettre à la poste, c'est véritablement quelque chose qui était effrayant. Et c'était ça, c'est une des scènes primitives dans lesquelles tous les trois étaient présents.
Alors après la disparition d'Apollinaire, il y a eu les tableaux mécaniques, si j'ose dire, et qui sont arrivés d'une façon très 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 inattendue dans le travail de Picabia.
Oui, moi je pense que c'est vraiment les États-Unis, c'est vraiment alors la relation aussi à toutes les revues d'automobiles, les schémas, ils adoraient cette littérature un peu à la fois des schémas scientifiques, les schémas de moteurs, ils étaient friands de toute cette iconographie qui les sortait au fond de l'iconographie.
Ça avait scandale au Salon d'automne et au Salon des Indépendants, je sais plus lequel c'était. Et où on avait installé évidemment les Picabia dans l'escalier parce qu'on était obligé de l'accepter parce qu'il avait eu le prix à l'époque impressionniste de ce salon. Et Picabia dit assez justement, mais ce n'est pas plus bête de peindre des éléments mécaniques que des pommes.
Oui, absolument.
C'est assez évident.
Oui, c'est un déplacement. C'est un déplacement très important qui va donner, qui donnera plus tard le pop art quand même.
Je veux dire, le mot pop me fait penser au mot hop, oui. Qui est un mot qui apparaît souvent chez Picabia à cette période-là, dans certains titres de tableaux. Et il y a quand même quelque chose qui réunit aussi Duchamp, Apollinaire et Picabia, me semble-t-il, c'est d'avoir été assez, surtout Picabia d'ailleurs, lié à l'opium.
Ah oui.
La vision onirique, ça a été très important.
C'est très important. D'ailleurs, Duchamp n'a pas du tout touché à ça. Mais Picabia, je pense que c'est même décisif. L'usage à la fois de l'opium et de d'autres substances. Hein. Je pense qu'il a utilisé absolument toutes les substances qui étaient utilisables à ce moment-là. Et plus les médicaments. Parce que c'était vraiment, non, il y a une vraie pharmacie picabiesque qui est très 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 importante. Et c'est vrai que c'est sans doute un des, et Jean-Jacques Lebel en parle, il en parle de ça dans son texte pour le catalogue de Zurich. Il émet cette hypothèse-là, que la question de la drogue. La drogue est vraiment très très importante. Alors évidemment, c'est pas du tout comme chez Michaud, c'est pas comme chez Artaud, c'est pas comme chez
comme chez Baudelaire peut-être.
C'est très bordélique encore une fois. C'est-à-dire, c'est un usage à la fois pour des raisons pour se soigner, pour se détruire, mais aussi pour aimer, etc. Je crois que ça va dans tous les sens. Il y a cette idée que c'est vraiment Picabia va vraiment dans tous les sens, hein. Et donc il n'y a pas une seule, il n'y a pas une conduite chez lui. Il y a plusieurs conduites superposées.
Alors je voudrais encore vous poser une question parce que vous parlez de plusieurs conduites superposées, ça me dirige vers une autre question qui est celle d'une exposition qui a eu lieu la même année que le film dont nous parlons, c'est-à-dire Entr'acte de 1924, et c'est l'exposition de Dalmao, une exposition en Espagne, même année, et alors là aussi c'était le bordel, il y avait tout, me semble-t-il. Et nous sommes en Espagne alors, comment est-ce que ça se passe, où est-ce?
Oui, c'est à Barcelone, et c'est une exposition donc chez le plus grand galeriste de l'époque, Dalmao, dans laquelle qui est une alternance de tableaux mécanomorphiques, donc des tableaux de schémas, de choses on pourrait dire abstraites entre guillemets, avec des Espagnols complètement figuratives et complètement kitsch et chromo.
Est-ce que c'est une plaisanterie sur le néoclassicisme agresque de Picasso de l'époque?
C'est ce que l'on dit, mais c'est ça et c'est pas ça. Je pense que toujours avec Picabia, il faut dire que c'est une chose et aussi son contraire. C'est-à-dire, bien sûr, la période ingresque de Picabia, il voit, et donc c'est une manière de s'en moquer, mais aussi c'est qu'il aime ça. Il faut arrêter de penser que c'est simplement toujours destructeur et que c'est... C'est-à-dire que
toujours ambivalent, en fait.
Oui, c'est qu'il aime véritablement ces Espagnols, il a besoin de montrer un peu aussi ses origines, il revendique, c'est une revendication d'une certain kitsch qu'il habite aussi, d'une hispanidad, hein. Je pense qu'il y a toujours chez lui une volonté d'être un Espagnol, même si c'est finalement un Français, mais enfin son nom, hein, quand même, porte. Donc il a toujours voulu garder cet espagnolisme, je sais pas comment le qualifier. Et donc là, même dans une exposition d'avant-garde, dans laquelle effectivement on va dire, oui, on est en pleine époque dada, où Picabia va mettre le désordre dans les catégories esthétiques, eh bien, il les met encore plus en scandant son exposition par des espagnolades.
Alors, je vous propose d'écouter à nouveau quelques propos rapportés de Picabia en 1926.
Pourquoi vous êtes-vous occupé de littérature ? Parce que c'est de la peinture. Pourquoi vous êtes-vous toujours amusé à détruire les mouvements artistiques que vous avez créés ? Par amour de mon prochain. Quel est donc votre sens du comique ? Celui d'outrager le respect sans aucune espèce de répétition. Et pour ne pas abuser davantage de votre bon vouloir, veuillez me dire la raison qui vous a fait vendre tous vos tableaux à Marcel Duchamp. Parce que c'est le seul homme qui me l'ait proposé. Francis Picabia, Essai critique, 1926.
Cher Bernard Marcalli, nous sommes toujours sur l'émission Les Regardeurs et nous avons examiné ce film extraordinaire Entr'acte de 1924 et nous sommes en train d'aborder la personnalité de Francis Picabia, personnalité immense, très déterminante pour le siècle, probablement un des très importants artistes de cette période, mais aussi écrivain, aussi faiseur de bons mots, aussi jouisseur, aussi personnage, quoi. L'écriture de Picabia, on en parle peu, mais les poèmes que l'on voit apparaître dans la revue 395, ou bien dans ses livres, ou ses romans, etc., elle est extraordinaire.
Elle est très importante. Non seulement il est poète, il a il a vraiment écrit énormément de poèmes, mais c'est aussi un sacré polémiste et un critique extraordinaire. Donc il y a aussi des traités peu de polémiques, des traités sur l'art. C'est quelqu'un qui a énormément écrit. Ça aussi, ça le distingue de Marcel Duchamp, qui est quelqu'un qui a très 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 peu écrit.
Mais comme on l'entendait tout à l'heure, quand Marcel Duchamp dit, c'est chaque phrase a son importance et il ne laisse rien passer. Absolument. On l'entendait quand on...
Là, encore une fois, l'œuvre poétique, l'œuvre écrite de Picabia est vraiment très très importante. C'est pas du tout, c'est pas des écrits d'artistes. C'est vraiment des écrits de poètes, des écrits d'écrivains. C'est véritablement quelqu'un qui a pris aussi, qui a pris le langage très très au sérieux. Enfin, très au sérieux, manière de dire. Puisque là aussi, il tordait le cou un petit peu à la rhétorique de l'époque. Mais c'est très, très important. Au fond, il l'écrivait quand il était très mal, souvent, et quand il n'arrivait pas à peindre. Ça, c'est assez classique, d'ailleurs. Il pouvait pas aller... Là, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il faisait les choses en même temps. Voilà, même si il avait cette propension à pouvoir superposer les choses, je pense qu'effectivement, il écrivait quand il ne peignait pas.
Et il écrivait aussi dans ses peintures.
Ah oui.
Beaucoup, et très bien, je veux dire, avec des jeux de mots, des associations, des images littéraires qui se combattaient avec les images visuelles qu'il proposait.
Absolument. Très important, les mots dans la peinture, oui. D'ailleurs, ça le lie encore à Marcel Duchamp. Il faut jamais oublier que Nu descendant un escalier était quelque chose qui était écrit sur le tableau. Et c'est ça qui avait fait scandale chez les cubistes. Il l'avait refusé parce que justement, il ne pouvait pas l'introduction du nu, donc même si c'était un mot dans cette peinture, était pour eux intolérable. Eux qui voulaient en finir avec le nu, avec la représentation, etc. Et évidemment, Duchamp, comme Picabio, réintroduisait de la figure ou de la narration par leur titre.
Il y a une chose surprenante quand on regarde la vie de Picabia, c'est l'importance des lettres. Il y a des milliers de lettres. C'est un écrivain permanent.
Oui, là, un écrivain. Et en même temps, il aimait beaucoup, lui qui détestait la répétition, mais ça c'est un paradoxe supplémentaire, il adorait aussi recopier. C'est-à-dire, on sait que les dernières lettres qu'il écrivait à Suzanne Roman...
Son
dernier grand amour. C'était des lettres qui étaient prises dans le Gai Savoir de Nietzsche et qui étaient recopiées comme ça, avec des déplacements, des détournements, etc. Et là, c'était pour... On ne pensait pas que ces lettres allaient être publiées. C'était vraiment des lettres vraiment à usage totalement amoureux. Donc c'était vraiment une manière d'être. C'est-à-dire une manière de parodier, de recopier, d'être dans le plagiat, dans cette volonté. Il y avait cet esprit permanent chez...
Alors des lettres enluminées, elles sont toujours accompagnées de dessins souvent extrêmement érotiques et d'une liberté et d'une absence de surmoi, en fait, comme une sorte de sincérité absolue,
oui.
Tout le temps, hein, et il dessine en permanence.
Oui, c'est très beau.
Dites-nous un mot sur, si vous voulez bien, Picabia et Nietzsche, puisque apparemment, Nietzsche l'a suivi toute sa vie, semble-t-il.
Oui, c'est-à-dire, il a deux auteurs, et je pense que deux auteurs importants, c'est Max Stirner, L'unique et sa propriété, et Frédéric Nietzsche. Oui, je pense que c'est vraiment le penseur qui l'a accompagné. Il n'a pas beaucoup lu. Duchamp et Picabia ne lisaient pas beaucoup, quoi qu'on dise. Hein. Mais Nietzsche, oui, ça l'a parcouru, que ça soit le Gai Savoir particulièrement, et puis Zarathoustra. Et donc, beaucoup de ses titres viennent de Nietzsche, beaucoup de ses lettres d'amour viennent de Nietzsche. Enfin, c'est assez impressionnant. Oui, c'est la dimension le Gai Savoir, précisément la dimension l'énergie,
oui,
l'énergie
aussi Michel,
le
noir,
caractère
savoir,
solaire. Ouais. En plus, c'était un être quand même qui était solaire. Picabia, même s'il a des périodes de grande nuit dans sa vie, mais globalement, il jouait en tout cas. Enfin, quand il apparaissait, il était vraiment. C'était un être de soleil qui était sur la Côte d'Azur, qui était bronzé, qui était avec des pantalons blancs. Bon, c'est assez important de le voir aussi comme ça. Donc, c'était pas quelqu'un qui passait sa vie dans des lits. Et ça,
non, il était puissant. D'ailleurs, il restait un athlète.
Il était dionysiaque, enfin, il avait dégagé une force, quoi.
Voilà. Dites-moi, est-ce une légende, il y aurait eu une rencontre entre Nietzsche et Picabia?
Non, mais ça, c'est...
J'ai vu ça une biographie.
Disons qu'ils étaient dans les mêmes endroits en Suisse, voilà. Et donc, il dit, ah ben oui, ben c'est là où Nietzsche... Oui, non, je pense que c'est une...
Quelle est la part du mensonge chez Picabia?
Énorme, oui.
C'est un bon thème?
Oui, le faux, le mensonge, la parodie, le plagiat, tout ça, c'est vraiment, ça fait partie du vocabulaire de Picabia, oui. Mais aussi la vérité, l'énergie, enfin le contraire et son contraire. Il y a vraiment une sorte de mise en tension incroyable. C'est là où ce sont pas des dialecticiens, c'est pas un dialecticien, il ne règle rien, il ne résolue rien. Il n'y a pas quelque chose qui serait réglé entre le vrai et le faux, etc. C'est vrai et faux. C'est véritablement, il y a une égalité, il y a une mise en tension et ça reste. C'est très singulier. Ce sont pas des gens qui essayent de trouver une solution, au fond.
Oui, il n'y a pas de problème. Ce qui nous ramène à notre ami Marcel, évidemment. Dites-moi, il y a ces questions de... Vous parliez tout à l'heure des monstres de Picabia. Et puis, il y a cette question des transparents que vous avez évoqués au début. Ces transparents peuvent paraître très étranges. C'est une sorte de vision classique, un petit peu classique, et inspirée par les... superposition du cinéma, vous le rappeliez. Est-ce que c'est une période superbe de Picabia? Est-ce que c'est une période, est-ce que c'est un renoncement? Est-ce que c'est une période combative? Comment est-ce qu'on appelle ce genre de période? En dehors du fait que les tableaux nous paraissent merveilleux à voir aujourd'hui.
Ah, c'est chaotique. Je crois que je les verrais comme quelque chose encore de l'ordre du chaos, puisque au fond il y a toutes ces admirations sont là. C'est comme si en même temps il les assumait, il voulait les détruire. Il y a l'art roman catalan.
Oui, on voit des figures, des vierges catalanes qui sont en superposition.
À des choses de la Renaissance, à du Botticelli, à des et. C'est comme si tout son amour était de la peinture, parce que je pense qu'effectivement il aimait la peinture, même s'il lui crachait dessus en permanence. Mais c'est pas incompatible.
Mais non, Rimbaud aimait la beauté, il lui crachait au visage.
Absolument. Et donc il y a cette idée de la superposition, je pense, ce qu'on appelle les transparences, ces superpositions de sujets, de couches, de peintures, etc. Je pense que c'est vraiment son amour fou pour la peinture. Donc j'y vois. Oui, c'est assez mélancolique. Moi, je dirais que c'est pas la période la plus gaie au niveau pictural.
Hein.
C'est assez. D'ailleurs, les tons sont un peu enfoncés,
verdâtres,
un peu glauque.
On parle aussi de la superposition de ses amours à cette période-là, qui serait une relation biographique en fait avec.
Moi, je trouve. En tout cas, c'est ce que je pense. Picabia ne passait pas d'une femme à une autre. Il passait d'une. Les femmes coexistaient.
Et d'ailleurs, se supportaient.
Se superposaient.
Parfaitement au courant les unes des autres de l'amour de l'autre. Disons un mot, puisqu'il nous reste 2 minutes, de la fin de l'œuvre de Picabia. Il y a cette période tellement mystérieuse des points, ces points dont on a parlé, qui apparaissaient dans le film, qui était notre sujet tout à l'heure. Et effectivement, à la dernière partie de sa vie, dans les années 50, il y a des monochromes avec des points qui apparaissent et des reliefs bizarres, comme s'il y avait des tableaux en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est?
Oui, comme s'il avait mis un rideau sur sa peinture et en même temps qu'il avait appuyé par un point final. Donc c'est à la fois mettre le rideau sur sa peinture, donc je crois il y aurait cette idée et en même temps rajouter encore une couche.
C'est pas une métaphore, puisque il y a effectivement des vrais tableaux derrière les tableaux. Ce sont des tableaux recouverts
Sont des tableaux recouverts, je pense. Oui. On voit qu'il y a vraiment que cette matière, on voit qu'il y a un dessin, on voit qu'il y a un sujet qui a été recouvert. Ouais. Et après il y a dessus en remettre encore une couche et comme un point final, oui.
Qui parfois est léger, parfois enfoncé, et c'est des peintures ripollinées, pas terribles. Hein,
ah oui, c'est pas noble, hein.
Quand vous dites que c'est pas noble, vous le dites comme une qualité ou comme un défaut?
Dans le cas de Picabia, je pense que l'ignoble, hein, l'ignoble est une énergie, en tout cas.
L'ignoble est une réussite. Dans la trajectoire de l'œuvre.
Absolument. Je crois qu'il y a cette nécessité de passer par l'ignominie, hein. Ignominie que reprendront des artistes qui sont très influencés par lui, comme Sigmar Polk, qui disait que la peinture était une ignominie, hein. Il l'a vraiment déclaré lui aussi.
Prenons ça comme point final. Merci beaucoup, Bernard Marcadet.
Merci.
Sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons examiné ce merveilleux film de 1924, Entr'acte, réalisé par René Clair sur un scénario de Francis Picabia avec la musique d'Éric Satie. Et pour en parler, nous étions en compagnie de ce merveilleux commentateur et connaisseur Bernard Marcadet, qui a contribué au catalogue de la très belle exposition consacrée à Picabia et qui se tient en ce moment à la Kunsthaus de Zurich jusqu'au 25 septembre de cette année. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr, dont s'occupe avec tendresse et attachement notre attaché d'émission, on peut pas mieux dire, et site internet Sylvia Favre. Lecture des textes, Martine Schambacher. À la technique, Alain Joubert. Réalisation, Franck Lilin. Merci Franck. Les Regardeurs, une émission de l'excellente Sandra Adam et de Jean Deloisy. Et dans quelques instants, Catherine Libère et Ville Monde.
Go until you come, babe. Come until you go.